Salut Siri, comment tu vas?
Je vais bien, merci. En quoi puis-je vous aider?
48 digitales. Communication numérique. Réactivité.
Digital, une émission proposée par les étudiants de l'UPVD de Mende en partenariat avec 48FM, Lozère Développement et le programme La Fabrique des Territoires.
Bonjour à tous, nous sommes en direct sur 48FM. Merci à vous de nous retrouver aujourd'hui pour cette dernière émission. Je m'appelle Alexia, je suis étudiante en licence pro TAFT à l'UPVD Antenne de Mende. Je suis votre nouvelle et dernière animatrice. Vous pouvez suivre notre activité en direct sur les sites Facebook et YouTube de Lozère Développement, ainsi que sur ceux de l'UPVD, puis sur les ondes de 48FM. N'hésitez pas à partager à votre entourage et à commenter. On vous remercie. Dans cette émission, mes collègues et moi aborderons le sujet des festivals. Pour répondre à nos questions, nous recevons Fabien, qui est directeur artistique chez Détour du Monde, Karim, président des Formicables, et Lara, du CIDFF, qui est le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles. Aujourd'hui, les objectifs sont de parler des valeurs et des identités culturelles et de promouvoir un festival. Pour ce faire, nous accueillons Fabien. Bonjour et bienvenue dans 48 Digital depuis Pollen.
Bonjour à toutes.
Vous êtes directeur artistique chez Détour du Monde, qui rassemble maintenant depuis 20 ans des civilisations vivantes. Pouvez-vous vous présenter et nous dire en quoi consiste le métier de directeur artistique?
Alors, je suis Fabien Monté, donc je suis le directeur artistique du Festival Détour du Monde actuellement. Mon parcours un peu en quelques mots, j'étais à la création du festival il y a 20 ans de ça. Et j'ai évolué avec, dedans, notamment en étant président, bénévole. En 2014, j'étais chargé de production et communication du festival, puis directeur artistique depuis 2017.
Donc l'association Détour du Monde est spécialisée dans l'art du spectacle vivant. Pouvez-vous nous en dire un peu plus en quelques mots?
En dire un peu plus, tout simplement, c'est Détour du Monde organise des concerts autour des musiques du monde. Les musiques du monde, alors il faut comprendre que... On ne parle pas d'esthétique, c'est-à-dire qu'on ne parle pas de blues, on ne parle pas de rock, on parle d'un genre. Les musiques du monde, en fait, ça regroupe beaucoup de valeurs. Et c'est là-dedans que nous, on vient piocher, en fait, un peu le fond de ce qu'on veut proposer, en fait, à travers des tours du monde. Donc, le festival a 20 ans, mais des tours du monde, ce n'est pas qu'un festival, c'est aussi une association. Donc, on organise des concerts à l'année, aussi des conférences, des projections. Et aussi, on accueille des artistes en résidence de création tout au long de l'année, qui vont venir sur notre territoire pour travailler leur création et qu'on retrouve après, que ce soit en concert, en saison ou pendant le festival.
D'accord. Et du coup, quelle est la vision artistique du Festival des Tours du Monde et comment choisissez-vous les artistes et les spectacles qui y participent?
Waouh. Vaste question. Alors, notre ligne artistique, en fait, comme je l'ai expliqué, on n'est pas sur une esthétique. Dans les musiques du monde, on va retrouver plusieurs esthétiques. En fait, on va aller chercher, il faut revenir un peu à l'origine de l'association pour comprendre. En fait, nous, quand on a créé le Festival des Tours du Monde, c'était pour nous une manière de valoriser la diversité culturelle qu'on retrouve sur notre planète. À travers ça, en fait, nous, on ne va pas se formaliser sur un style, on ne va pas être complètement dans les musiques traditionnelles. On va très bien aller du côté de l'électro ou du rock ou du blues, tout ça. Mais ce qu'on va chercher avant tout, en fait, c'est un message. C'est un message et à valoriser des artistes qui ont des choses à dire, pas forcément sur scène, mais qui ont des choses à dire à travers leur parcours. Je pense notamment, pour la 20e édition, on a accueilli Eliades Ochoa, qui est un artiste qui s'est fait connaître à travers le Buena Vista Social Club, mais un artiste qui a un parcours riche et justement qui a à travers son parcours, on va retrouver des valeurs. Et c'est à travers ces valeurs qu'en fait, nous, on va vouloir en fait valoriser ces artistes-là.
D'accord. Et du coup, quel type de public attire votre festival en général?
Alors, c'est une très bonne question et je ne peux pas te répondre. Et, et peut-être même, je ne veux pas te répondre. En vrai, c'est que je pars du principe que nous, à travers nos actions, en fait, on va essayer de montrer des choses et de dire des choses. Et on ne va pas forcément parler d'un public, on va essayer de parler au plus grand nombre. Ce qui nous intéresse, en fait, c'est à travers les actions qu'on propose, que le public qui vienne découvre quelque chose, justement, une autre culture. Et c'est vraiment là-dedans qu'on va aller chercher, en fait, nos actions. Et moi, j'aime à dire qu'on n'a pas de public, en fait. Que le public... on ne parle pas de notre public, parce que pour moi, ça n'existe pas, le fait de s'approprier un public. Mais on a un public qui est intéressé ou pas par les actions qu'on fait.
D'accord.
Et tant qu'il y a du public, ça veut dire que ce qu'on fait a du sens, donc on continue.
D'accord, merci. Et quel constat était à l'origine de la création de Détour du Monde ?
Alors, quand on a créé en fait le festival en 2003, il me semble, vraiment, on se rêvait en fait à dire que Détour du Monde serait le carrefour des musiques du monde le temps d'un week-end et la tour son antenne. Ben, ça reflète un peu notre principe en fait de pourquoi on a créé ce festival autour des musiques du monde. En fait, c'est une volonté. Il faut savoir que nous, on sortait d'études quand on a créé le festival, mais avant même une association. Et ce qu'on voulait, c'était vraiment en fait amener d'autres cultures sur notre territoire et le valoriser un maximum et le faire découvrir aux gens en fait. Mmh. Et vraiment, ça part de ce postulat-là. Après, évidemment, le sens évolue avec notre société. Ça fait 20 ans qu'on existe, donc évidemment que notre pensée évolue. Mais encore une fois, je pense que le plus important, c'est que tant qu'on a le sentiment d'avoir des choses à dire et à montrer, ben, il faut continuer.
D'accord, merci. Quelles sont les valeurs et l'identité culturelle que vous souhaitez transmettre à travers ce festival ? Et comment favorisez-vous le dialogue et le partage entre les cultures du monde ?
Pareil, ça fait plein de questions. Donc on va essayer de répondre petit à petit. Donc, d'abord, au niveau des valeurs, je pense qu'on va surtout chercher, comme je te disais, de valoriser la diversité culturelle. Mmh. C'est vraiment ce qu'on a envie de pas de défendre, c'est pas le mot, parce que si, quand on pose le mot de défense, ça veut dire qu'on se met en situation de repli. Nous, on n'est pas dans cette situation de repli, même si la société peut montrer cette chose-là. Nous, on a envie vraiment de valoriser, de montrer ce qu'il y a de plus beau dans notre monde. Donc, il y a cette notion de diversité. Il y a aussi une notion qui nous tient à cœur, c'est la notion d'humanisme, tout simplement. C'est qu'on part du principe, en fait, que l'humain passe avant tout. Que l'humain passe au-dessus d'autres valeurs mercantiles, commerciales, des choses comme ça. Donc cette valeur est assez forte dans notre association, mais il y a aussi l'éco-responsabilité,
oui.
Qui est quelque chose qui est assez fort chez nous, qu'on a toujours porté sans forcément le valoriser, parce que pour nous, ça nous semble logique, en fait, que quand on crée un événement ponctuel, ben, l'idée, c'est de laisser le moins de traces possible de notre passage. Et cette réflexion se globalise petit à petit avec les années qui passent. Ça se structure aussi à la demande d'institutions, mais pas que. Je pense que ça devient quand même une priorité dans notre monde. Et cette notion d'éco-responsabilité, elle est hyper importante maintenant. Donc ça se structure petit à petit. On a participé à la création notamment d'un label éco-responsable des événements régionaux. On travaille dedans et on se nourrit beaucoup en fait entre festivals pour développer cette éco-responsabilité.
D'accord. Alors on va changer de sujet. Au niveau de la restauration qui est proposée sur le site, est-ce donc de la nourriture du monde et quel type de restauration proposez-vous ?
Vaste question aussi. Ben, on essaye un maximum, en tout cas, de privilégier l'alimentation éco-responsable et locale. On va aller plus facilement au maximum sur du bio, mais aussi sur des circuits courts, que ce soit pour la restauration, mais aussi, aussi pour la buvette, hein, où on travaille avec des brasseurs locaux de notre territoire. Tout ça, on essaye toujours d'amener ça. Après, la restauration du monde, oui, on propose une restauration du monde, évidemment. Après, tout dépend aussi de la disponibilité des restaurateurs, de ce qu'ils ont envie de proposer. En tout cas, on arrive toujours à trouver.
D'accord. Et quels sont les défis, les opportunités que vous rencontrez pour organiser et promouvoir le festival ?
Ben, c'est un défi constant, en fait. Hein. C'est que faut savoir que nous, chaque année, on remet en cause ce qu'on fait. Donc en fait, quand on fait le bilan de l'édition passée, on le fait au mois de septembre-octobre généralement, on va toujours remettre en cause en fait ce qu'on fait, pourquoi on le fait, le sens de pourquoi on le fait, pour ne pas tomber dans le fait de faire pour faire.
Oui.
Mais de faire, c'est ce que je te disais tout à l'heure aussi, parce qu'on a le sentiment d'avoir envie de montrer encore des choses, de dire des choses, de laisser la place à ces artistes justement qui sont justement cette antenne envers le public, de faire passer les messages. Donc nous, le défi, il est là chaque année. Et après, le défi, il est aussi de se renouveler, parce que justement, quand on a des choses à dire, on est... Le monde de la culture en perpétuelle évolution aussi.
Mmh.
Et on doit faire face aux contraintes financières, aux contraintes sociétales, aux contraintes éco-responsables, aussi de traiter des questions qui sont importantes, notamment les violences sexuelles. Ce sont des choses, tout ça, en fait, que nous, on prend en compte et dont on a envie, en fait, de pousser toujours un peu plus ce qu'on a envie de dire dessus. Donc les défis sont là et ce n'est pas des défis assez minces, c'est quand même des gros défis chaque année de pouvoir remonter un festival. Faut savoir que nous, notre festival, il implique énormément de bénévoles. C'est une vingtaine de bénévoles, de membres actifs de l'association en l'année qui travaillent sur l'organisation du festival. Et c'est de refédérer, de dynamiser en fait ce collectif en fait pour en extraire des choses qui sont magnifiques.
Et ça nous amène du coup sur la question suivante. Comment vous arrivez à fidéliser et à renouveler d'une édition à l'autre? Et quelles actions de médiation et de sensibilisation vous mettez en place?
Fidéliser, qu'est-ce que tu entends par fidéliser?
Au niveau du public qui reviennent chaque année
Mais je pense qu'on ne se pose jamais la question de fidéliser un public. C'est ce que je disais, en fait. On n'a pas notre public. Donc, à partir de là, le public se reconnaît dans notre événement et vient pour des diverses raisons. Notre public ne vient pas forcément pour les mêmes raisons.
Oui.
Certains vont venir pour écouter la musique, d'autres pour le message qu'il y a derrière, d'autres parce qu'ils aiment justement l'ambiance de ce festival, des soirées qu'on organise. C'est tout ça après. Je pense que il n'y a pas de question de fidélisation. Il y a vraiment la question de la cohérence de ce que nous, on a envie de porter. Et tant que c'est cohérent, moi, je suis convaincu que le public... déjà, le public n'est pas bête. Et qu'à partir de là, il a envie de venir ou pas. Et si on est là depuis 20 ans, ça veut dire qu'on ne s'inscrit pas totalement au faux dans la manière de penser. Après, je ne me souviens plus l'autre partie de ta question.
Quelles sont les actions de médiation et de sensibilisation que vous mettez en place?
En fait, les actions de médiation que nous, on va mettre en place, alors, je ne vais pas parler de médiation, moi, je vais parler de transmission.
Ouais.
Parce que justement, il y a cette notion dans la culture qui est importante, c'est cette notion de transmission, en fait. C'est qu'est-ce qu'on a du passé ou du présent qu'on a envie de transmettre aux générations futures. Donc, les actions qu'on va mettre en place, c'est à travers... Premièrement, les résidences de création, les artistes qu'on reçoit ou qui va venir à la rencontre d'un public du territoire, ne serait-ce que par une sortie de résidence, il va montrer le travail qu'il fait et autour expliquer. Ça peut être des rencontres en milieu scolaire aussi, où ces artistes vont venir à la rencontre des écoliers pour parler de leur parcours, de leurs origines, de là d'où ils viennent, de leur musique, de leurs instruments, de tout ça. Et c'est à travers ces actions-là, en fait, qu'on va essayer un maximum de travailler la transmission. Mais pas par les résidences. On va le faire aussi notamment du festival, où nous, on aime, à chaque édition, mettre en place une thématique, un fil rouge qu'on va suivre tout au long de l'année et dont l'aboutissement va être le festival. Et généralement, on essaye de s'appuyer sur des questions sociétales. Et de développer un petit parcours de pensée à travers notre saison et le festival. Tu vois, l'année dernière, on a beaucoup traité en fait la question de la migration. On avait accueilli une pièce de théâtre qui s'appelait Pièce d'actualité numéro 17, qui s'appuyait sur un documentaire qui retraçait un peu le parcours des migrants et qui se focalisait beaucoup sur la Libye. Ces questions-là qu'on a essayé un maximum de travailler. Au festival, en accueillant notamment SOS Méditerranée, en réaccueillant justement un grand reporter qui avait réalisé un reportage sur la traversée en Méditerranée. Et cette année, on reste un peu dans cette thématique-là, mais on pousse un peu plus. C'est-à-dire que justement, à travers une action qu'on va faire le 5 avril, une soirée au son, on donne une carte blanche en fait à Atelier des artistes en exil, qui est une structure qui est entre Paris et Marseille, en fait, qui va accueillir ces artistes exilés, qui va les accompagner justement dans leur volonté de continuer à faire leur travail, c'est-à-dire à créer leur spectacle, tout ça. Et justement, mais tu vois, c'est avec ce genre d'action qu'on va justement travailler la transmission et la médiation.
Et vous essayez de changer les thématiques toutes les années?
Mais je crois surtout qu'on n'a pas envie de se poser de contraintes par rapport à ça. Donc en fait, généralement, la thématique, c'est le fil rouge, il s'impose assez facilement à nous à travers nos réunions, à travers les discussions qu'on a entre membres de l'association. Et on va travailler justement cette thématique en fonction. Après, on n'essaye pas vaille que vaille, tu vois, de poser une thématique en disant « Allez, cette année, on va traiter ça ». C'est justement ce que je te dis, en fait, c'est que dès la réunion bilan, on va commencer à construire l'édition d'après. Tu vois, en se posant la question, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Qu'est-ce qu'on a envie de dire? Quel est le sens des actions qu'on veut porter cette année? Et la thématique vient naturellement se poser à ça.
D'accord. Alors, je vous remercie pour ce riche échange qu'on a eu. Et on va désormais écouter la chronique de Cindy, qui portera sur comment rendre un festival éco-responsable, comme vous en avez parlé tout à l'heure un petit peu.
Donc oui, en effet, je vais vous parler du comment rendre un festival éco-responsable grâce au développement durable. Les festivals, ces événements culturels qui rassemblent des milliers de personnes, ont un impact significatif sur l'environnement. De la consommation d'énergie à la production de déchets, en passant par l'utilisation des ressources naturelles, les festivals peuvent avoir des conséquences néfastes sur notre planète. Mais alors, comment concilier plaisir festif et préservation de l'environnement? C'est là qu'intervient le développement durable. Le développement durable, c'est l'idée de répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Pour rendre un festival éco-responsable, il faut donc adopter une approche globale prenant en compte les dimensions économiques, sociales et environnementales du développement durable. Tout d'abord, commençons par l'environnement. Pour réduire l'empreinte écologique d'un festival, il est essentiel de mettre en place des actions concrètes telles que la réduction des déchets, le recyclage, l'utilisation d'énergie renouvelable et la promotion de la mobilité douce. Des alternatives comme les toilettes sèches, la vaisselle réutilisable et les gobelets consignés peuvent également contribuer à réduire l'impact environnemental du festival. Ensuite, le volet social du développement durable est tout aussi important. Un festival éco-responsable doit être accessible à tous en veillant à ce que les personnes à mobilité réduite, les familles et les personnes à faible revenu puissent y participer. Il est également crucial d'impliquer la communauté locale dans l'organisation du festival, en valorisant l'emploi local et en soutenant les initiatives sociales et en encourageant le dialogue interculturel. Enfin, d'un point de vue économique, un festival éco-responsable doit être viable sur le long terme. Cela signifie adopter des pratiques de gestion financière transparentes et responsables, ainsi que favoriser les partenariats entre les entreprises et les organisations engagées dans le développement durable. Les festivals peuvent également être une occasion de promouvoir les produits locaux, l'artisanat traditionnel et les initiatives entrepreneuriales durables. En conclusion, rendre un festival éco-responsable grâce au développement durable est un défi à relever, mais c'est aussi une formidable opportunité de promouvoir des valeurs de respect de l'environnement, d'inclusion sociale et de prospérité économique, en adoptant une approche globale et en impliquant toutes les parties prenantes. Nous pouvons faire en sorte que les festivals de demain soient des espaces de célébration et de partage, tout en préservant notre planète pour les générations futures.
Merci beaucoup Cindy pour ces informations. Pour revenir à vous, qu'est-ce que vous mettez en place sur vos festivals pour limiter l'impact et contribuer au développement durable?
Contribuer au développement durable, alors je ne sais pas quelle est notre part de contribution par rapport à ça, ce qu'on met en place, ce que je te disais. Donc il y a des actions basiques, en fait, très simples, mais qu'on fait déjà tous les festivals en Lozère depuis des années, notamment l'utilisation de gobelets réutilisables, des choses comme ça, en sachant que c'est ce que j'expliquais aussi à certains et certaines, en fait, c'est qu'un gobelet réutilisable est réel. Il y a un réel impact, en fait, sur l'éco-responsabilité du moment où on passe les 7 utilisations. Donc c'est ça, c'est notamment en fait la question des toilettes sèches qui, ça fait un moment que ça existe. Après, là où ça devient vraiment d'actualité, c'est sur la limitation de la consommation d'eau. Donc c'est là où les toilettes sèches sont de plus en plus, ont une part importante justement dans la prise en compte de l'éco-responsabilité d'événements. C'est ça, c'est aussi se fixer des objectifs, mais des objectifs atteignables en fait. Faut faire avec les moyens qu'on a. Donc, notamment des objectifs assez simples. Nous, depuis 2 ans, on travaille en fait sur l'élimination du plastique à usage unique sur l'ensemble du festival. Voilà, d'essayer à travers ces petites actions comme ça. Favoriser l'immobilité douce, évidemment. Donc, mettre en place, justement, trouver des alternatives, en fait, à utiliser une voiture pour une personne, mais à mettre en place, justement, via des sites qui font ça, de covoiturage, mettre en place des points de covoiturage pour les festivaliers, tout en ayant quand même aussi ce recul de se dire qu'on est en Lozère. Et qu'en fait, en Lozère, on n'a pas les mêmes mobilités douces qu'on peut avoir dans d'autres territoires, dans d'autres départements. Et notamment la question des voies vertes. Il est compliqué de venir à Chanac à vélo pour une nuit à travers ces choses-là. Et c'est justement tous ces questionnements-là qui dépassent l'impact simplement d'un festival, mais qui deviennent des questions sociétales sur notre territoire. Je pense qu'il est important maintenant de réfléchir à ça. Qu'est-ce que la mobilité douce en Lozère, et qu'est-ce qu'on peut mettre en place réellement pour développer ça?
Eh ben, je vous remercie en tout cas, et on va faire une petite pause musicale avant la seconde partie de l'émission. Merci à vous.
Merci à vous.
Gotta find myself a couple of drinks. Red wine, you make me feel so fine. Red wine, make me feel so fine. Red wine, I got troubles on my mind. Red wine, make me feel so fine. Red wine, I got troubles on my mind. I went down the street to find myself a couple of drinks, hanging around with my homies, having fun together, a real pleasure. Thinking about what I have to do to get happiness back in my life again. Sometimes some brewish can do this, bro. Red wine can make you feel so fine. Chase it blood, everything comes from God. Red wine, make me feel so fine. Red wine, I got troubles on my mind. Red wine, make me feel so fine. Red wine, I got troubles on my mind. Party time, literally in the morning with the red wine. I didn't feel that fine, not even better, but whatever. We rolled out of troubles, it's like a rumble in the jungle. But the thing is when I'm feeling sad, I will always get some red wine, yeah, and that's a fact. Red wine, make me feel so fine. Red wine, I got troubles on my mind. Red wine, make me feel so fine. Red wine, I got troubles on my mind.
Nous sommes de retour en direct sur les pages YouTube et Facebook de Lozère Développement, sur celles de l'UPVD et sur les antennes de 48 FM. Pour cette seconde partie de l'émission, nous recevons Karim, président des Formicables et organisateur du Marvelous Pop Festival. Enchanté Karim.
Bonjour à toutes et à tous.
Alors, le Marvelous Pop Festival est un événement culturel pluridisciplinaire qui se déroule à Marvejols, en en Lozère, en plein cœur du Gévaudan. Ce festival est organisé par l'association Les Formicables, qui s'inspire de l'univers pop des années 50, 60 et 70. Je vais vous laisser vous présenter.
Oui, bonjour. Karim, président de l'association Les Formicables à Marvejols. Voilà, tout simplement. on va garder un peu de suspense pour la suite.
Quelle est votre vision de la culture pop et de son évolution ?
Ouais, là, c'est une grosse question. Alors déjà, on va essayer de définir ensemble ce que c'est que la culture pop, si vous voulez.
Oui.
La culture pop, qu'est-ce que c'est ? Déjà, quand on parle de culture pop, c'est un anglicisme qu'on pourrait traduire en français par culture populaire. La culture populaire, c'est un mouvement qui est né, ou qui a réellement émergé dans les années 60. On connaît tous les emblématiques figurines de Andy Warhol, la Marilyn Monroe, ainsi de suite. Et en fait, du coup, la culture pop, c'est un mouvement de masse qui va s'adresser au plus grand nombre, en fait, pour diffuser un message, une identité par rapport à un moment donné. Concrètement, dans les années 60, par exemple, on avait le pop art, qui était un mouvement très fort, si vous voulez, de ces époques-là. Et c'est ça, c'est ce qui s'inscrit dans la pop culture. Et chaque époque, chaque décennie, a son mouvement de pop culture, jusqu'à aujourd'hui encore, avec tout ce qui est YouTubeur, TikTok, et ainsi de suite. Donc la pop culture, c'est un mouvement qui est amené à évoluer vraiment sans limite à travers le temps et sans limite à travers les médias. C'est-à-dire qu'au départ, ça a commencé à être diffusé à travers simplement des affiches, tout simplement, les premiers médias, puis la télévision, puis la radio, enfin ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est un mouvement qui est en perpétuelle évolution. Nous, en ce qui nous concerne avec les Formicables, l'esthétique qui nous intéresse, c'est celle qu'on a choisi de traiter et de travailler, c'est celle qui tourne autour des années 50, 60, 70, qu'on appelle le vintage. Et c'est vraiment ce qui nous plaît.
Et comment est né ce projet, alors ?
Alors, ce projet, c'est une longue histoire. En fait, je suis né à Marvejols, j'ai grandi à Marvejols. Et j'ai toujours voulu faire quelque chose sur mon territoire. Marvejols est un peu orpheline d'un festival. Et du coup, je me disais, il faudrait faire quelque chose. Alors j'avais ce projet-là, qui était à l'époque pour moi simplement un rêve, que j'imaginais. On dit toujours qu'il faut viser la lune pour atteindre le soleil. Mais du coup... Oh, c'est tout l'inverse. Mais du coup... j'avais cette idée-là. Et j'en parlais avec des copains. Tous les copains me disaient, ouais, c'est une superbe idée. C'est une superbe idée, mais tu n'y arriveras jamais parce que c'est trop compliqué à monter. Je n'étais pas du tout du métier ni de la partie. Il faut un sacré réseau, enfin voilà. Jusqu'au jour où... Et ça restait que des discussions de comptoir. Jusqu'au jour où j'ai fait la rencontre de Laure Vidal, qui a de suite adhéré au projet, qui a de suite cru au projet et qui m'a plus que motivé à le faire. Et du coup, c'est ensemble avec Madame Vidal que nous avons commencé à monter ce projet petit à petit. J'ai ramené mes copains, elle a ramené les siens et c'est ainsi qu'est né le Marvelous. Et donc, c'est vraiment la réunion d'amis et de copains autour d'un projet commun.
D'accord. Et du coup, c'est votre motivation principale pour organiser le festival ?
Alors,
vous en avez d'autres ?
La motivation première, en fait, si on veut, et si on regarde même dans les statuts de l'association, chez les Formicables, l'objet premier, ce n'est pas réellement de créer un festival, c'est de créer du lien social et de fédérer toutes les associations culturelles locales autour d'un projet commun. Et du coup, le festival n'est qu'un prétexte, si on veut, mais c'est réellement pour s'associer, de créer des échanges entre les personnes. Et c'est là, enfin, ce qui est vraiment sympa, c'est de voir des gens qui ne sont pas issus du même milieu, ni social, catégorie d'âge, catégorie socio-professionnelle, et bien qui se rencontrent le temps d'un week-end, ou le temps parfois même d'une année, pour préparer un festival, parce que ça prend du temps, pour échanger, participer, voilà, et se rencontrer. Et c'est en ça que notre objectif est atteint.
Et il me semble avoir vu que le festival était gratuit. Comment arrivez-vous à financer le projet et le faire durer dans le temps ?
Alors ça, c'est un choix, c'est vraiment un choix personnel, c'est un choix de l'association. On a toujours dit qu'en ce qui nous concerne, la culture doit être accessible au plus grand nombre. C'était aussi un des marqueurs de la pop culture. Et du coup, on avait réellement envie de le rendre gratuit et accessible à tous. Mmh. Le Marvelous Pop Festival, c'est un festival qui se veut intergénérationnel, vous l'avez dit, mais aussi pluridisciplinaire. Et dans le côté intergénérationnel, l'idée, c'est de pouvoir venir en famille. C'est-à-dire que c'est un festival auquel vous pouvez venir avec vos parents, vos grands-parents, vos enfants, et tout le monde se sentira à l'aise parce qu'il y a quelque chose. Et forcément, quand on vient en masse et du coup en famille, de suite, si on fait des entrées payantes, ça fait des budgets. Et du coup, là, on n'était pas du tout d'accord avec ça. L'idée, c'est de pouvoir passer un moment en famille. C'est-à-dire que c'est un des rares festivals où on peut venir vraiment tous en famille, prendre du moment, prendre du plaisir, et pendant toute la journée, du matin jusqu'au soir. Comment est-ce qu'on y arrive là-dessus ? Il y a plusieurs leviers qui nous permettent d'arriver à proposer un festival gratuit. La première, c'est qu'on est une association qui est 100% bénévole. Du premier au dernier et du coup forcément quand on est tous que bénévoles déjà il y a une part du budget qui est en plus destinée du coup à la programmation, à l'animation du festival. La deuxième, ça tient vraiment à tous les réseaux qu'on sollicite, à tous les partenaires, que ce soit des partenaires institutionnels, professionnels, les commerçants, les artisans, qui donnent tous pour pouvoir faire en sorte que ce festival soit une réussite. Et c'est ce qui est aussi un des marqueurs clés du succès du Marvelose, c'est que tout le monde, enfin, du moins sur le bassin de vie de Marvejols, en tous les cas, veut s'approprier une part du festival et veut participer à sa façon. Et du coup, c'est comme ça qu'on arrive à limiter les coûts, que ce soit au niveau de l'impression, au niveau de la logistique, au niveau de la mise en œuvre de pas mal de choses.
Et quelles difficultés vous rencontrez, du coup, pour mettre en place un tel événement ?
Les difficultés, ben, elles sont toujours, on va dire, plus administratives en termes au niveau des financements, parce que bien sûr, aussi, on a des partenaires institutionnels qui nous suivent, et l'idée, c'est de leur montrer que chaque année on fait plus, chaque année on se professionnalise davantage, chaque année on a une programmation qui est de plus en plus riche, de plus en plus longue, de plus en plus étoffée, et donc bah, aussi de leur demander de nous accompagner en ce sens-là. Après, en ce qui nous concerne, on n'a pas réellement d'autres difficultés que celles-ci, dans le sens où on est tous que bénévoles et on prend réellement un grand plaisir, on vient s'impliquer par plaisir et par motivation. C'est parce que le projet nous plaît, parce que l'idée de pouvoir se rencontrer les dimanches pendant les ateliers de fabrication auxquels tout le monde est convié, tout le monde peut venir, vous êtes les bienvenus. Voilà, c'est vraiment cet motif-là qui nous plaît. Et tant qu'on y prend du plaisir, on continue tout simplement. C'est aussi simple que ça.
Et du coup, vous avez des retours du public, des partenaires ?
Les retours du public, comme le disait Fabien tout à l'heure, le public n'appartient à personne. Le public est libre d'aller et venir. Par contre, là où le retour positif qu'on peut en tirer, c'est que chaque année, la fréquentation augmente. D'année en année, la fréquentation augmente. Et ce qui est au-delà d'augmenter, c'est que ceux qui sont venus reviennent. Ils reviennent avec des copains, reviennent avec la famille encore plus parce qu'ils y ont pris du plaisir. Et donc voilà, elle est là notre satisfaction.
Et est-ce que vous avez des objectifs pour les prochaines éditions ?
Déjà, arriver à se maintenir, c'est déjà un noble objectif. Déjà, arriver à durer parce que c'est pas facile dans le monde associatif de pouvoir durer, perdurer, de pouvoir arriver à garder aussi les énergies bénévoles parce que les bénévoles, c'est pareil, ça va et ça vient. Et d'arriver à les mobiliser pour qu'ils continuent à donner, parce que sans bénévoles, on ne fait rien aujourd'hui, tout simplement. L'événement tient grâce à l'énergie des bénévoles, et sans ça, il n'y a plus rien. Donc si on arrive à perdurer, déjà, ça sera déjà pas mal.
Et d'où vient le nom Les Formicables ?
Les Formicables, ah. Bah, du coup, vous avez compris le jeu de mots entre Formidable et le Formica. Forcément, il fallait donner un nom à l'association, et puis bon, rien de mieux que le Formica, qui est quand même emblématique de cette époque-là, qui est très coloré, qui est vraiment, voilà.
Et quelles sont les valeurs et les missions de votre association ?
En valeur première, je dirais le vivre ensemble. Le vivre ensemble nous tient à cœur, réellement. Comme je vous l'ai dit, ça fait partie même des objets même de l'association. C'est vraiment le vivre ensemble et de partager. Partager ensemble autour de la culture, puisque c'est quelque chose qui nous touche. C'est le créneau qu'on a choisi, nous, pour se rassembler, si vous voulez. Mais c'est réellement de pouvoir partager un temps ensemble, partager du moment, partager des galères aussi, il faut le dire, hein, de temps en temps. Mais justement, et c'est pour ces galères-là, c'est d'arriver à les résoudre ensemble.
Et on en parlait tout à l'heure des bénévoles. Et comment vous réussissez à les recruter et comment vous animez les bénévoles qui vous aident ?
Alors, on dit toujours qu'un bénévole est contagieux. C'est-à-dire que si un bénévole qui est déçu ne vient pas, il en parlera à ses copains, ils ne viendront pas non plus. En revanche, si un bénévole est content de l'accueil qui lui est réservé quand il vient, à ce compte-là, il revient, mais surtout, il revient accompagné. Et donc, c'est là, c'est en ça qu'on joue. Du coup, nous, notre créneau réellement, c'est de jouer sur l'ambiance, vraiment, sur l'ambiance, sur l'esprit très familial, l'esprit très amical, j'ai envie de dire, qu'il y a sur les ateliers qu'on anime. Alors tous les dimanches, là par exemple, en ce moment nous y sommes, puisque nous travaillons sur un projet de carnaval qui aura lieu à Marvejols le samedi 30 mars, auquel vous êtes tous les bienvenus. Donc festival en journée qui est plutôt dédié à un public jeune, et en soirée à la salle polyvalente à Marvejols avec un bal d'hiver. Mais l'idée du coup, c'est que tous les dimanches on se réunit pour créer, fabriquer, proposer des choses, réfléchir ensemble. C'est réellement d'impliquer tout le monde, de prendre la considération de tout le monde. C'est-à-dire que les bénévoles chez nous ne sont pas simples exécutants, mais ils viennent, ils sont toujours force de proposition, force d'action. Et ensuite, c'est nous, bien sûr, en tant qu'organisateurs de l'événement, qui jugeons en fonction du budget, de la difficulté, des contraintes, si cela est réalisable ou pas, et de l'adéquation avec la thématique, bien évidemment, qui est retenue. Mais c'est en ce sens-là que les bénévoles se sentent considérés et du coup, qu'ils apprécient venir, en fait.
Merci beaucoup pour ces informations. On va se diriger vers Mathilde qui va nous présenter le rôle du bénévolat dans un festival.
Bonjour Alexia, bonjour Karim et bonjour les auditeurs. Merci de m'accueillir sur le live. Les festivals sont des manifestations éphémères qui sont le plus souvent annuelles. Ils peuvent être sur différents thèmes comme la musique, le cinéma, le théâtre, la gastronomie ou encore la littérature. Les festivals ont pour but de rassembler des citoyens autour d'un moment festif, joyeux et fédérateur. Il est centré autour d'un intérêt commun qui est donné. Le moment du festival a beaucoup de valeur. Il y a une grande ouverture d'esprit, une tolérance, un respect ou encore des valeurs éco-responsables et humanistes. Le bon déroulement d'un festival, c'est principalement basé donc, sur le bénévolat, donc, comme pour le Marvelous. La gestion des bénévoles est bien particulière parce qu'il y a besoin d'une bonne organisation. Cela commence lors du recrutement. Donc en général, ça commence par un questionnaire numérique ou encore papier, selon l'accès des bénévoles. Le questionnaire permet donc de décrire les compétences, les expériences antérieures et les domaines d'intérêt spécifiques, et encore bien évidemment donc les disponibilités. L'étape du recrutement est cruciale pour le bon déroulement donc de l'événement. Une fois les bénévoles sélectionnés, il faut organiser une réunion où chaque volontaire a l'occasion de discuter de ses compétences et des préférences avec un responsable. Ça permet de mieux comprendre les forces de chaque bénévole et de les assigner au mieux au rôle correspondant. On peut avoir un système en ligne tel qu'une plateforme de gestion des bénévoles pour collecter donc ces informations qui peut être centralisée et accessible à l'ensemble de l'équipe organisatrice. On peut avoir un système de retour d'expérience qui permet donc d'apporter des ajustements pour les éditions futures qui peuvent assurer donc une gestion efficace et une expérience enrichissante pour les bénévoles. Donc ça favorise la réussite. En tant que bénévole, vous aurez la possibilité de faire de fabuleux postes comme l'entretien de la propreté des lieux, vider les poubelles, faire la plonge, mais aussi s'occuper du parking sous la cagne ou le mauvais temps, du fléchage ou encore s'occuper des imprévus parce que bien évidemment il y en a toujours. Donc parmi tous ces postes, il y en a bien évidemment des beaucoup plus agréables comme s'occuper de l'accueil des festivaliers, des artistes. Donc il y a possibilité aussi de faire donc du service donc derrière la buvette ou encore derrière de la pour s'occuper de la nourriture. Donc c'est une partie qui est assez sympathique pour les bénévoles, mais il y a aussi le montage et le démontage du site. Donc c'est un temps qui permet un échange et des rencontres pour les bénévoles. Et donc être bénévole, c'est aussi beaucoup d'énergie qui est demandée. Leur dénouvant accorde à ceux-ci quelques avantages comme des accès privilégiés aux loges, aux scènes, mais aussi parfois des prises avantageuses sur les boissons et la nourriture. Donc faut pas oublier tout d'abord qu'être bénévole, c'est un état d'esprit, c'est un bon moment passé avec les collègues ou encore l'opportunité de rencontrer d'autres personnes. Et donc c'est l'occasion d'avoir de magnifiques expériences et des bons souvenirs.
Merci beaucoup Mathilde. Et d'ailleurs Mathilde était bénévole au Marvelous Pop Festival. Vous avez combien de bénévoles pour ce festival ?
On va dire les membres actifs qui sont impliqués tout au long de l'année, c'est grosso modo c'est une vingtaine de personnes qui œuvrent, qui répondent de toujours présents pour participer à toutes les réunions, à la programmation, ainsi de suite. Après, pendant l'événement, c'est à peu près d'une année sur l'autre, c'est entre 130 et 140 personnes qui œuvrent. Alors tous les bénévoles qui viennent au festival sont, bien sûr, ont fait le choix de venir. Et ce qui leur plaît réellement, c'est qu'ils choisissent. Les missions sont très très larges, comme a pu le dire Mathilde. Il y en a énormément. Et chacun vient s'impliquer là où il a envie, avec le temps qu'il a, si vous voulez. Et c'est ça aussi, tout à l'heure, vous me disiez comment on fait pour intéresser les bénévoles. C'est en ce sens-là où les bénévoles se sentent considérés, parce que ça fait l'objet d'une commission particulière, avec une attention particulière sur leur accueil, sur le service qu'on propose aux bénévoles, sur les avantages qu'ils peuvent avoir en étant bénévoles dans un festival. Mais enfin voilà, c'est tout ça, c'est cet ensemble de choses-là qui font que les bénévoles reviennent et reviennent.
Quelle est votre vision de la culture et de l'animation du territoire lozérien ?
Ouf, là c'est un vaste sujet. Déjà, moi je me réjouis que sur un territoire tel que le nôtre, la Lozère qui est un milieu rural, on ait autant de festivals qui existent avec toutes des thématiques et des créneaux différents. C'est-à-dire que vraiment, c'est déjà, je pense que c'est une chance pour le territoire. Je pense que c'est quelque chose, c'est une chance qu'il faut arriver à faire perdurer à travers le temps, arriver à consolider. Et c'est pour ça que j'aime aussi à travailler avec tous les différents partenaires pour avoir leur ressenti, avoir leur savoir un petit peu comment ça se passe chez eux pour améliorer chez nous aussi. Et j'espère, pourquoi pas un jour, pouvoir arriver à faire en sorte qu'on puisse arriver tous ensemble à travailler pour arriver, pourquoi pas, à monter un projet commun, on va dire, pourquoi pas supradépartemental, quelque chose de sympa, quoi.
Eh ben, je vous remercie pour cet échange et on va faire une petite pause musicale avant la dernière partie de l'émission. Merci à vous.
Merci bien.
jungle, but don't live in a bungalow. With my clothes, my elogues, I brush my fangs off. Hogs, there ain't a beast in the east. They wants to make me his beast, 'cause I'm the coolest cat that this town knows. I'm roaming on and on and on. I'm hunting spots to dot to dot. Eating cheers in everybody's lawn. Spinning fear when a single lazy yarn.
Nous sommes de retour en direct sur les pages YouTube et Facebook de Lozère Développement, sur celles de l'UPVD et sur les antennes de 48FM. Pour cette dernière partie de l'émission, nous recevons Lara qui intervient avec le CIDFF. Enchantée Lara.
Salut.
On va commencer par la chronique de Lucie qui va nous parler de l'écologie.
Bonjour à tous, merci Alexia de me donner la parole. Il y a un sujet que Cindy a abordé tout à l'heure et qui est au cœur des enjeux de notre société actuelle, c'est l'écologie et les responsabilités en termes de développement durable. Alors, je sais que quand on parle d'événements et plus particulièrement de festivals, on préfère tout de suite penser aux performances de nos artistes préférés, aux moments incroyables qu'on y passe, plutôt du coup à cet aspect festif et inoubliable, mais on ne peut pas pour autant faire comme si l'envers du décor n'existait pas. Parce qu'on le sait, un festival génère énormément de besoins en préparation, de grandes installations sur des lieux naturels, beaucoup de personnes qui se déplacent, qui achètent, qui consomment, donc beaucoup de déchets aussi. En bref, un festival pollue énormément, donc je trouve intéressant qu'on prenne quelques minutes pour se demander si c'est un problème qui va finir par nuire à la pérennité des festivals et s'il existe des solutions concrètes pour faire en sorte que ces événements polluent le moins possible. Donc, comme on le sait, les problèmes environnementaux préoccupent de plus en plus l'opinion publique. Les gens se renseignent sur le changement climatique, la pollution, et essaient de trouver des solutions pour lutter contre ces phénomènes. Aujourd'hui, il existe des preuves scientifiques de l'impact environnemental des festivals. On parle ici d'émissions de carbone, de gestion de déchets, de consommation d'eau, d'énergie, mais aussi de beaucoup de gaspillage alimentaire et de déchets plastiques comme les gobelets. Pour apporter des chiffres, en France, un festival de 50 000 spectateurs rejette autant de CO2 que 400 allers-retours Paris-New York. Encore plus troublant, on a récemment appris que parmi les déchets récupérés sur les sites des festivals, 17% proviennent de l'abandon des tentes des festivaliers. Alors, si certains s'en préoccupent peu au point de se permettre de laisser leurs tentes, peu importe les conséquences, ce n'est pas le cas des activistes écologistes qui, eux, essaient corps et âme de faire prendre conscience de l'urgence environnementale. L'heure est grave et ils veulent le faire comprendre. Ils se créent des comptes activistes sur les réseaux sociaux, lancent des pétitions et manifestent au cœur même des festivals. Par exemple, en mai dernier, lors du Festival de Cannes, des militants écologistes ont tenté de bloquer l'arrivée des stars en jet privé avec des voitures télécommandées pour dénoncer l'aberration écologique que représente le Festival de Cannes. Les organisateurs ont pour la plupart conscience de ces problèmes. Ils savent que pour que leur festival garde une bonne réputation, ils doivent agir et pour cela trouver des solutions. En général, ils décident donc d'apporter des pratiques plus durables, telles que l'utilisation d'énergie renouvelable, la réduction du plastique à usage unique, la communication via Internet et en sensibilisant les festivaliers aux problèmes environnementaux. Mais il faut savoir que cela reste un défi difficile à relever pour les organisateurs, et ce pour plusieurs raisons. Déjà par contrainte budgétaire, car il faut investir. De plus, en raison de la complexité logistique par cause de consommation excessive ou simplement parce que les festivaliers eux-mêmes ne sont pas sensibles à la question du réchauffement climatique. Un défi certes difficile, mais pas impossible. C'est ce qu'a voulu prouver par exemple le Bonnaroo Music and Arts Festival à Manchester, dans le Tennessee, aux États-Unis. Depuis de nombreuses années, il utilise l'énergie solaire, encourage le recyclage et le compostage à travers des stations de tri, favorise les toilettes sèches pour économiser l'eau, promeut les transports durables comme le covoiturage et bien d'autres actions. Des actions minutieusement mises en place, pour réduire l'impact environnemental et continuer de garantir une expérience culturelle de qualité. Un festival qui prouve donc que c'est possible. Ainsi, si l'on peut revenir sur la question « Est-ce que la cause environnementale va nuire à l'organisation des festivals ?», je dirais qu'il est peu probable que les festivals disparaissent complètement, car ils jouent un rôle culturel bien trop important dans la société. Cependant, ils sont confrontés à un défi de taille, trouver un équilibre entre expression artistique, divertissement et protection de la planète. Alors oui, c'est l'affaire de tous, les artistes et festivaliers sont eux aussi les principaux concernés, mais je vais m'adresser à vous, qui de par votre profession êtes touchés par les démarches RSE, vous sentez-vous concernés par ces enjeux et en capacité de mettre en place, au sein de vos missions, des solutions durables pour préserver notre planète?
Merci Lucie. On va revenir à vous, Lara. Donc, vous travaillez pour une association qui intervient auprès de bénévoles et d'associations pour les former sur des cas précis, donc comme par exemple l'égalité, la non-violence, les violences sexistes et sexuelles. Donc, pouvez-vous vous présenter un peu plus l'association et vous-même aussi ?
Donc, je vais faire vite. Donc, moi, c'est Lara, référente formation du coup pour le compte du CIDF. En gros, pour celles et ceux qui ne sauraient pas encore qu'est-ce que c'est que cette association, du coup, donc loi 1901, on a un agrément d'État du ministère de l'égalité entre les femmes et les hommes, de lutte contre la discrimination. On est 12 professionnels diverses et variées, juristes, éduques, psychologues, chargés de mission, tout ça. Et le but du jeu, pour nous, c'est d'accueillir, d'informer, de prévenir, de lutter contre toutes les formes de violences possibles et inimaginables, de promouvoir l'égalité pour tous, voilà, et de lutter contre les discriminations.
Pouvez-vous nous parler donc de la formation violence sexiste et sexuelle en milieu festif ?
Ouais. Alors c'est une formation auquel on a pensé dès 2021 et vraiment qu'on a mis en place dès 2022. En gros, il s'agit pour, en tout cas, d'accompagner les organismes, les festivals à avoir des référents ou des référentes dans leurs équipes, dans les équipes de prod, dans les équipes de bénévoles, pour avoir un référent ou une référente violence sexiste et sexuelle. Voilà. Il se trouve que beaucoup de festivals n'avaient pas forcément pensé ou pensé à ces questions-là, mais n'avaient pas forcément les outils pour le faire. Et que la DRAC, quand même la personne qui donne un peu les sous, la personne, on ne va pas mystifier cet organisme-là, mais en gros, qui va donner des subventions pour que les festivals puissent exister, a dit concrètement, il vous faut quelqu'un pour penser à ces questions-là. parce que vous ne pouvez pas laisser faire au regard des violences qui sont vécues par beaucoup de personnes. Voilà. Donc du coup, nous, on a créé une formation sur 2 journées où l'idée, ça va être de travailler sur la compréhension de l'impact des stéréotypes sur les violences sexistes et sexuelles, de comprendre ce que sont les violences, de parler des obligations légales. Et le plus important, et en tout cas le plus intéressant, en tout cas pour nous, ça va être de co-construire avec les personnes qui vont venir sur cette formation un protocole d'action avec des prises en charge. Qu'est-ce qu'on peut faire pour sensibiliser et accompagner si on a des victimes de violences sur son festoche.
Voilà. Et en Lozère, est-ce qu'il y a eu beaucoup d'organismes à avoir répondu à ce suivi de formation?
Oui, tous et toutes. Alors, petit clin d'œil à Détour du Monde et au Formicable qu'on attend. du coup, oui, bien sûr, on a formé les gens de la Soupe, le Festival d'Hôte, Festivalier, le Théâtre de Mende, Scène Croisée. Enfin, voilà, on a aussi des gens de la préfecture qui sont venus, donc tous les gens qui vont se charger de la sécurité, les équipes de la Croix-Rouge. Enfin, voilà, l'idée, c'est vraiment de créer de la synergie, du collectif, de faire bouger les lignes, de faire changer la société et que ces problématiques-là, elles soient vraiment prises en compte quand on est sur le milieu festif qui est un milieu très particulier.
Et comment vous arrivez à sensibiliser les festivaliers sur ces sujets?
Alors nous, on peut en tant qu'association tenir des stands de prévention, ou alors accompagner principalement les bénévoles. C'est l'idée de la formation, c'est de dire qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour pouvoir prévenir les violences. D'accord. Et comment on agit si jamais il y a de la violence qui se passe sur le lieu du festival.
Et qui intervient au sein de la formation? Est-ce qu'il faut avoir des compétences spécifiques pour pouvoir proposer
sur cette formation-là, on a la juriste qui est diplômée d'État, voilà, et qui va intervenir pour parler plus spécifiquement des obligations légales et de ce qui va encadrer concrètement les obligations des organisateurs et de qu'est-ce qu'on fait quand on a une victime en face, et la psychologue qui va plutôt intervenir sur la prise en charge, l'accueil des victimes et sur la compréhension du système de violence.
Et est-ce que vous avez une idée un peu sur le nombre de violences qu'il y a en France lors des festivals?
Alors, c'est difficile, c'est hyper compliqué de donner un chiffre sur les violences. Il y a plein d'assos qui essayent, des outils, des applications qui vont essayer de référencer un petit peu, et on en voit de plus en plus. Concrètement, c'est une thématique qui est à la mode, qui existe depuis très longtemps, mais qu'on voit de plus en plus émerger. Il y a des associations qui ont fait des études en termes de ressenti sur leur propre festival, qu'une femme sur deux, en gros, pourrait se sentir victime de violence ou d'agression quand elle est sur un lieu festif. Voilà. Nous, on dit une femme sur deux, mais les hommes sont concernés aussi. Donc un pourcentage assez important, effectivement, de personnes victimes sur un lieu festif.
Est-ce que vous savez les moyens qui sont mis en œuvre en Lozère pour lutter contre ces violences et autres discriminations?
Alors du coup, va y avoir tout ce que les festivals ils vont mettre en œuvre. Oui. Voilà, soit parce qu'ils ont suivi la formation et qu'on a parlé de protocoles ou d'outils, soit parce qu'ils avaient déjà des idées, qu'ils avaient déjà mis des choses en place. Et après, comme toute forme de violence, en fait, il y a les services de police, de gendarmerie, les orientations sur les associations spécialisées. Voilà.
J'ai vu qu'il y avait plusieurs associations qui avaient suivi votre formation et qui se sont regroupées pour mettre en place des outils de prévention. Est-ce que vous pouvez me donner quelques exemples?
Alors concrètement, sans les nommer, je ne sais pas si ils n'auront pas de problème à partager ces infos-là, mais il y a certains festivals qui ont créé notamment des cartes à brandir en fonction des situations qu'on allait vivre pour dire ça c'est ok, ça c'est pas ok, ou genre là tu te calmes, tu poses ta main. Enfin voilà, un système de cartes et qu'on peut montrer à différents référents ou bénévoles qui vont circuler au sein du festival, des lieux d'accueil dédiés avec des appartements, des salles. Enfin voilà, ça c'est des exemples qui ont été faits sur des choses ici, en Lozère.
En ce qui concerne le cadre juridique, que risque une personne qui commet un acte de violence et quelle est la démarche suivie par l'association ou autre acteur du territoire?
Alors on va dire à gravité de l'acte, gravité de la réponse pénale, c'est très compliqué de caractériser, tout va dépendre, on peut aller de l'outrage sexiste au viol, et concrètement la réponse pénale elle sera absolument pas la même. Donc ce qui va déjà être très important pour nous, c'est que les victimes de ces actes-là, quels qu'ils soient, puissent s'exprimer et avoir un espace où elles puissent dire ce qu'ils ou ce qu'elles ont vécu. Voilà. Et du coup, après, orienter sur les associations spécialisées, entrer dans un processus de dépôt de plainte, etc., etc., s'il y a besoin d'aller jusque-là.
Et quelles mesures prises par l'association, quelles mesures sont prises par l'association pour rendre les festivals plus inclusifs et accessibles aux femmes?
Ah, et ben on fait de la formation. On n'est pas concrètement, on n'est pas des sachantes. Enfin, oui. Le but, nous, c'est de réussir à. On a des idées, on a des formations spécifiques, on a travaillé ces thématiques-là, mais on n'a pas de réponse toute cuite et toute faite. L'idée, c'est de, en rencontrant les personnes, des milieux culturels et artistiques, de dire, ok, vous avez constaté quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui est envisageable? Enfin, vous avez deux garçons qui sont venus discuter. Enfin, chacun a aussi ses problématiques et il faut y penser, mais dans la mesure de ce qu'on est capable de faire aussi. Et l'idée, c'est de construire ensemble et nous d'accompagner ce truc-là.
Et comment vous mesuriez-vous l'impact de vos actions dans le domaine culturel et artistique?
Alors concrètement, cette année, on va faire des retours. On va faire des retours concertés avec toutes les équipes qu'on a formées parce qu'ils ont mis en place des outils et des protocoles. Donc l'idée, ça va être de voir si eux, ils ont vu un retour effectif de ce qu'ils avaient fait. Et après, nous, ce qu'on voit en retour spécifique, c'est que dans les coms, on voit apparaître des petites phrases où il y a « si vous êtes victime de violence, vous pouvez et qu'on nous appelle ou qu'on nous oriente des personnes, qu'on tient des stands sur le festivalier. On est allé à la rencontre aussi du public qui venait. » Enfin voilà. Donc tout ça, c'est... L'idée, c'est de faire émerger que ce soit plus tabou, qu'on ose parler de ces trucs-là, qui qu'on soit, quel qu'on soit, quel qu'on soit, ce que vous voulez, mais que ça reste pas tabou. Voilà.
D'accord. Et pour finir, une dernière question. Quel conseil donneriez-vous aux personnes qui nous regardent pour lutter contre toute discrimination et violence?
Sérieusement, formez-vous, pensez, arrêtez de rentrer dans les cases et réfléchissez un petit peu. Voilà. Soyez toujours en questionnement, concrètement.
D'accord. Je vous remercie pour vos réponses.
De rien.
Pour finir, je tiens à remercier donc les invités du jour, donc Fabien, Karim et Lara, pour avoir participé à notre émission et pour avoir répondu aux nombreuses questions. Je remercie également les chroniqueurs de l'UPVD Antenne de Mende, Cindy, Lucie et Mathilde, ainsi que toutes les équipes techniques de communication et Pollen pour les locaux, à Lozère Développement et pour leur soutien précieux, et sans oublier 48FM. Aujourd'hui, c'était la dernière émission de cette série. J'espère que toutes les autres émissions vous ont plu, ainsi que celle d'aujourd'hui. J'espère que mes collègues et moi avons su répondre à certaines questions que vous vous posez. N'hésitez pas à faire passer un retour sur les réseaux sociaux de Lozère Développement, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube. N'hésitez pas à partager au maximum et à mettre un petit like si vous avez apprécié le concept de cette série d'émissions. Je vous souhaite une belle journée et n'oubliez pas de soutenir Lozère Développement, 48FM, ainsi que l'UPVD Demande. À bientôt. Into the realm dripping.
try to reach out, but he's in his own world. This boy's got my head tied in knots with all his games. I simply want him more because he looks the other way.